Chapitre 24. Nous suivions un boyau taillé dans le roc. L'atmosphère n'avait plus rien à voir avec celle de la crypte dans laquelle nous nous trouvions quelques minutes plus tôt. Plus de débris sur le sol, ni d'odeur de moisie. La lueur de nos lampes frontales éclairait le couloir sur quelques mètres avant d'être avalée par l'obscurité. La roche paraissait avoir été martelée sans presque aucune aspérité. Plus nous avancions, plus les parois étaient lisses. Il n'y avait que peu d'infiltration, quelques rares traces de moisissure. Le sol n'était ni humide ni glissant, juste poussiéreux. L'étonnante salubrité du lieu était due au système d'aération passive que les savants cisterciens maîtrisaient comme personne. En répartissant des bouches d'aération tout au long du parcours, ils sculptaient littéralement les courants d'air afin de n'épargner aucune partie des galeries. Le système de ventilation reposait sur de simples conduits remontant à la surface ou débouchant sur les parois de la montagne. Les creusets avaient cependant nécessité presque autant de travail que les galeries elles-mêmes. C'est sur une de ces prises d'air que nos ennemis étaient installés, au nord-est du château. Les plus fragiles s'étaient éboulés ou avaient été obstrués par des débris naturels au fil du temps, mais notre première campagne avait démontré que plus des deux tiers de ce fabuleux système de régulation de l'atmosphère fonctionnait encore après plusieurs siècles d'abandon, comme dans les pyramides ou les temples incas. Sans doute un peu oppressé par l'obscurité et le silence, Nathan avait le souffle court. Même sans être claustrophobe, se retrouver dans un tunnel profondément enfoui sous terre avait de quoi déstabiliser n'importe qui. Je me souvins de ce que j'avais éprouvé la première fois. J'espérais qu'il s'y accoutumerait lui aussi. Je savais qu'il ferait tout pour. Je le vis redresser les épaules et il se retourna pour demander « Où allons-nous? Qui a construit ces passages ?» Le fossé à combler entre ce que tu sais pour vivre maintenant et ce que tu dois savoir pour survivre demain est trop grand. Nous n'avons pas le temps de faire dans le détail. Je vais parer au plus pressé. Tu te souviens que les Templiers et les Cisterciens sont des ordres différents, mais créés par les membres d'une même famille. Bernard de Clairvaux fonda les Cisterciens et son parent Hugues de Pin établit quelque temps après l'ordre qui allait devenir celui des Templiers. Une association de chevaliers dont la première mission fut d'assurer la sécurité des pèlerins en Terre Sainte. C'est également cette mission qui leur valut la reconnaissance du pape. Les Cisterciens étaient pour leur part un ordre refermé sur lui-même, méditant et étudiant dans la pénombre des abbayes, pendant que les Templiers se battaient sous le soleil du Moyen-Orient pour défendre l'Église catholique. L'histoire est longue. Mais pour résumer, quelques décennies plus tard, les Templiers avaient acquis au cours de leur mission des connaissances géographiques et militaires qui en faisaient l'une des armées les plus efficaces que le Moyen-Âge ait connues. Leur courage devint légendaire. Leur puissance militaire ne fut pas la seule à croître. Leur pouvoir financier se renforça également. En plus des biens que chaque membre abandonnait au profit de l'ordre, leurs commanderies formèrent le premier réseau commercial jamais créé en Europe. Ils devinrent une puissance aussi incontournable que discrète, de la Belgique à l'Italie et de l'Allemagne à l'Espagne. Les Cisterciens, de leur côté, progressaient sur le chemin de la connaissance. Les heures de méditation ouvrirent les esprits de certains frères qui eurent l'idée de faire de la recherche pure. Les premiers laboratoires naquirent. Les Templiers rapportèrent des croisades, des découvertes qu'ils confièrent naturellement aux Cisterciens afin qu'ils les étudient. À une époque où tous les monarques d'Europe se battaient pour des terres et des frontières, Cisterciens et Templiers, chacun avec leurs caractéristiques mais en parfaite complémentarité, préfiguraient déjà un modèle de société largement en avance sur son temps. En schématisant à l'extrême, les Templiers étaient le corps et les Cisterciens l'esprit. Nathan marchait devant moi, écoutant sans m'interrompre. La tension dans son dos me disait qu'il absorbait le moindre mot. Jusque-là, poursuivis-je, les deux ordres n'avaient fait que croître à l'écart du monde. Ils existaient, progressaient et vivaient en marge de ce qui les entourait. Les Templiers prenaient de l'autonomie par rapport au Saint-Siège, allant même jusqu'à refuser de massacrer au nom de Dieu. Les Cisterciens, quant à eux, maintenaient les portes de leurs abbayes de plus en plus closes pour n'avoir de compte à rendre à personne sur leurs recherches. L'écho de ma voix résonnait, renvoyé par la roche. La situation a commencé à se gâter lorsque l'Église et la couronne ont compris que les Templiers étaient devenus assez puissants matériellement et spirituellement pour un jour les supplanter. Les armes politiques de l'époque étaient identiques à celles d'aujourd'hui, la désinformation, la calomnie, mentir à l'opinion publique dans le but d'isoler et de marginaliser l'adversaire. Les Templiers n'ont pu se contenter plus longtemps d'exister en paix, il leur a fallu combattre ceux qui voulaient les détruire. L'ordre s'est alors reconfiguré pour se montrer plus à même de s'informer des velléités de ses adversaires. La puissance financière devint une arme économique, les commanderies n'étant plus seulement des relais pour les pèlerins et les commerçants, mais de redoutables ambassades partout en Europe. Les cisterciens se faisaient les plus discrets possibles, résistant avec constance aux tentatives de déstabilisation de leur ordre. Les aléas de l'histoire ont voulu que les cathares existent au même moment. Leur association était logique. Les cathares étaient des pacifistes convaincus, tout le monde s'accorde là-dessus, mais on leur a tout de même attribué la construction des forteresses les plus évoluées de l'époque médiévale. Ne parle-t-on pas des châteaux cathares? Par le plus grand des hasards, sans doute, ces châteaux présentent les mêmes caractéristiques que d'autres construits ailleurs, et cela officiellement attribué aux Templiers. Mais les historiens sont formels, il n'y a jamais eu de lien entre eux. Et c'est pour se préserver qu'ils se sont cachés dans ces souterrains? Exactement. Lorsque cathares et Templiers contrôlaient la région, les cisterciens s'y sont naturellement implantés en confiance et ont construit bon nombre d'abbayes. Une possible invasion, soit par l'Espagne, soit par le Nord, exigeait pour les lieux de recherche une sécurité maximale. La région est riche en grottes et en cavités naturelles. Le Pog, le piton rocheux sur lequel est bâti le château de Montségur, ne fait pas exception. De nombreuses cavités y existaient avant sa construction. La situation géographique, à égale distance des deux façades maritimes, et un climat clément météorologiquement et spirituellement, ont vite fait de ce fief une rare concentration de lieux essentiels. Montségur étant lui-même une place de premier ordre, il était naturel qu'ils installent des réserves financières et des labos directement sous sa protection. Tous les châteaux du monde ont des souterrains. La différence entre ceux dans lesquels nous nous trouvons et les autres se joue au niveau de leur contenu. Ailleurs, les souterrains n'étaient que des lieux de passage ou de fuite. Ici, ils étaient en plus des lieux de vie. Il y a pourtant eu des recherches. Les fouilles archéologiques ont été nombreuses dans le coin, non? C'est vrai. Des chercheurs sont venus. Ils ont creusé des trous d'un mètre autour du château et n'ont rien trouvé, sinon quelques poteries et des ossements. Ils en ont conclu qu'il n'y avait pas de souterrain. Ce sont peut-être leurs ancêtres qui, quelques siècles plus tôt, réduisaient au silence tous ceux qui osaient dire que la terre était ronde, alors qu'eux savaient bien qu'elle était plate. Le programme de restauration des années 50 a officiellement démontré qu'il n'y avait aucune entrée dérobée. Les sondages géologiques ont conclu qu'il n'existait sous le château ni souterrain ni grotte. Ces recherches avaient surtout pour but de mettre fin aux fouilles sauvages. Le mythe d'un prétendu trésor des cathares a toujours échauffé les esprits. Il y a même eu des chasseurs de trésors pour pratiquer des fouilles à l'explosif au XIXe siècle, sans rien trouver non plus. Des investigations scientifiques ont bien eu lieu entre la fin des années 70 et le début des années 80, mais uniquement à l'intérieur de l'enceinte. De nouveaux sondages ont été concentrés sur les portes sud et nord en 1998. Tous ces travaux ont été entrepris à proximité du château. Aucun n'est allé chercher plus loin et plus profond. En définitive, il n'y a que deux façons de savoir réellement ce qui se trouve sous le château. Soit on démonte la montagne et on regarde ce qu'il y a dedans, soit on dispose du témoignage de ceux qui ont construit ces souterrains et on vérifie. Les gens qui ont conduit ces multiples fouilles ne disposaient d'aucune de ces alternatives. Ils en ont été réduits à se draper dans leur certitude. Tu te rendras très bientôt compte par toi-même s'ils ont eu raison ou non d'affirmer qu'il n'y a rien sous Montségur. Nathan resta songeur un bon moment avant de demander sur un ton plus léger. On va marcher longtemps comme ça? En plus, avant d'arriver sous le pic du château, nous devrons redescendre pour passer sous la vallée, non? On est à un peu moins de 2 kilomètres du pic. Nous le dépasserons pour nous placer le plus près possible sous le camp adverse. C'est le seul moyen que nous ayons pour réellement nous rendre compte de ce qu'ils font sur ces galeries. Tu crois qu'ils ont trouvé une entrée? J'espère que non. De temps à autre, la paroi rocheuse se prolongeait par un mur bâti. Nous devions approcher de la surface de la montagne et la galerie traversait des veines de terre meubles que retenaient les maçonneries. Seuls les joints des pierres parfaitement ajustés tranchaient avec les pans taillés dans le roc. Un premier carrefour se présenta, 5 galeries disposées en étoiles. Nathan s'engagea naturellement dans le tunnel qui continuait droit devant lui. « Dans 200 mètres, tu vas mourir. » Ma voix résonna dans les galeries, le stoppant net. Il revint sur ses pas inquiet.
« Pourquoi dis-tu ça ?»«
Parce que c'est vrai. » « La direction du château, c'est bien par là ?»«
La direction, oui,
mais pas le chemin à suivre. » Je lui montrai ma boussole. « Tu vois, elle est pas d'accord avec toi. » Je passai en revue tous les angles des couloirs. Le deuxième sur la gauche affola l'aiguille. Tous les novices en ce lieu auraient fait comme toi, et les assaillants pareil. 200 mètres plus loin, le sol glisse et le boyau devient brusquement vertical. C'est une oubliette. Moi aussi, j'ai failli y tomber la première fois que je suis venu. Le sage me guidait alors. Il ne cessait de me répéter les principes du lieu. J'avais encore ses paroles en mémoire. Les gens génèrent souvent eux-mêmes ce qui les détruit. Si tu avais été seul, Nathan, tu serais probablement au fond de ce trou, les jambes brisées par ta chute, échoué parmi des vestiges de squelettes, la panique au ventre, sans aucun espoir de secours. Tout ici a été conçu à partir des réflexions et de l'expérience acquise durant des siècles au sein de plusieurs civilisations. Il serait vaniteux de croire que tu peux traverser ces lieux sans utiliser autre chose que ton instinct. Il faut y mettre ce que tu as de plus fort en toi, ton savoir, ton intuition, ta réflexion, tout ton esprit. Ici, la vanité est mortelle. Le couloir décrivait une large courbe tout en descendant progressivement. Le sol devenait plus glissant au fur et à mesure que la pente s'accentuait. Plus bas, il se transformait en un escalier étroit encadré de 2 pentes lisses. Attends, je vais te montrer autre chose. Devant moi, Nathan s'arrêta et trébucha en voulant se retourner. Je le retins par son blouson.
Ils auraient pu faire l'escalier plus large, s'exclama-t-il. Ça glisse!
Regarde les murs. Il observa attentivement, palpa les blocs les plus hauts et ramena sa main.
C'est mouillé,
constata-t-il en faisant glisser ses doigts contre son pouce. Ce n'est pas la même pierre partout. En hauteur, la plupart des blocs sont faits de calcaire et sont plus fragiles que ceux du bas. Ils alternent avec des blocs de granit qui compensent leur fragilité et assurent la solidité de la galerie. Nathan touchait les pierres du haut, puis celle du bas, enfonçant ses ongles dans certaines et constatant le contact plus froid des autres. En haut, le calcaire est poreux et laisse filtrer l'eau. Ici, tout est humide, alors que depuis que nous avons quitté la crypte, c'était sec. L'eau qui suinte de ces blocs humidifie l'air et les parois, ce qui permet le développement permanent de microbactéries, de champignons et de moisissures sur les murs et le sol. Je m'accroupis pour lui montrer. Au toucher, la pierre noircie était très glissante.
C'est pour faire tomber les gens?
Pas seulement. L'humidité provoque également l'apparition de salpêtres sur les murs et surtout sur le plafond.
Comme dans les caves humides?
Je hochai la tête. C'est ça. L'espèce de dépôt fibreux blanc qu'on s'amuse à chauffer pour l'enflammer quand on négocie.
Attends. À cette époque-là, il s'éclairait avec des torches?
Il devait les tenir plutôt en hauteur pour mieux voir. Donc lorsqu'il passait ici, le salpêtre s'enflammait.
Il devait avoir une trouille bleue et probablement se casser la figure sur le sol glissant, c'est ça?
Exact. Le seul moyen de franchir ce couloir sans problème était d'avancer dans le noir, parfaitement au milieu, et donc en file indienne pour rester sur l'escalier étroit. Celui qui transgressait ces règles était sûr de s'offrir la peur de sa vie, puis la gamelle du siècle en finissant
Tu vas voir où. Tu t'imagines, avançant dans un lieu inconnu, habité par les terreurs de l'époque, hanté par les légendes qui courent sur les gens chez qui tu pénètres. Et là, le plafond prend feu dans un souffle de flammes, tu t'écroules et au revoir. Ceux qui s'en sortaient faisaient demi-tour en hurlant qu'ils avaient vu l'enfer. Nathan regardait, rêveur, le sol glissant et le salpêtre qui, depuis des siècles, attendait les envahisseurs avec patience. Avec les lampes électriques, ça sert plus à rien. Mais d'autres pièges fonctionnent encore. Je me permets de te rappeler que même avec ta lampe, tu serais mort au premier carrefour. La pente ne cessait de s'accentuer. Le couloir se scindait maintenant en deux. Obliquant sur la droite, il continuait, plus large et sans escalier, alors que, tout droit, une sorte de toboggan plongeait à la verticale dans un puits noir. « Et tu finis aux oubliettes !» s'exclama Nathan. Je cherchai une pièce de monnaie dans la poche de mon blouson et la jetai dans le puits. On entendit son tintement que de longues secondes plus tard. « Tu fais toujours des dons quand tu passes ici ?»« Je me débarrasse de ce qui compte le moins dans ce monde-ci, l'argent. Allez, viens, on continue. »